France Musique.
Catherine de Médicis, reine mère des arts. Au cours des années 1500, la France est dirigée par une série de rois qui appartiennent à la dynastie des Valois, dont trois frères, François II, Charles IX et Henri III. Alors que ces hommes portent tous le titre de roi de France, une femme puissante est dans les coulisses, guidant leurs décisions politiques et culturelles depuis le début. Leur mère, Catherine de Médicis. Fille de Laurent de Médicis et d'une princesse française, Madeleine de la Tour d'Auvergne, Catherine de Médicis est mariée sur les conseils de son oncle, le pape Clément VII, pour des raisons diplomatiques et financières, à un cadet de la famille royale française. Le dauphin Henri, second fils de François Ier. À la cour de France, elle est non seulement confrontée à l'anti-italianisme qui émerge dans le sillage des guerres d'Italie et des transformations de la vie politique à la Renaissance, mais aussi à la présence de la favorite du roi, Diane de Poitiers. Stérile pendant de nombreuses années, elle donne 10 enfants à Henri II. Ce n'est qu'après son veuvage, en 1559, qu'elle fait preuve de sa personnalité. Elle se révèle être une mère attentive, une épouse et une reine exemplaire. En exerçant 5 régences, 3 sous le règne de son mari, une après la mort de François II et une dernière après la mort de Charles IX, Catherine de Médicis affirme tout au long de ses règnes son rôle politique. À travers l'importance donnée à l'administration, l'ampleur des échanges diplomatiques, la présence de grands réseaux de clientèle, mais aussi et surtout son investissement dans le domaine culturel et architectural. Peu de reines ont marqué l'histoire de France comme Catherine de Médicis. Sa présence à la cour et au sein du gouvernement est d'une longévité exceptionnelle. Elle débute donc de 1533 sous le beau XVIe siècle pour s'achever à Blois en 1589 au cœur de la 8e guerre de religion. De simple bru de roi à reine, régente et reine-mère, elle est à la fois un témoin et un acteur majeur en France et en Europe. Mère de 3 rois et de 2 reines, régente et conseillère privilégiée de ses fils, Catherine de Médicis poursuit pendant plus de 40 ans une politique de tolérance qui se démarque par sa modernité. Durant toute sa vie, la reine est une figure controversée qui suscite des témoignages et des jugements marqués par la crise religieuse, la misogynie et la xénophobie. Mais dans la période de crise qui éclate en France dans les années 1560, le rôle de Catherine de Médicis n'est pas seulement politique. Sans doute en raison de ses origines florentines, la reine-mère croit, elle, au pouvoir des arts durant la guerre civile. En tant que membre de l'élite de la famille Médicis en Italie, Catherine est exposée dès son plus jeune âge aux beaux-arts, à la musique, à l'architecture et à la danse. Son enfance se déroule dans des palais décorés au goût du jour et entourée d'artistes qu'on s'attache par des rentes. Aussi, lorsqu'elle épouse Henri de France en 1533, alors âgée de 14 ans, elle emmène avec elle plusieurs des architectes, menuisiers et artisans les plus accomplis du nord de l'Italie. À son arrivée à Paris, elle découvre le Louvre qui est un véritable gâchis, composé de morceaux de bâtiments commencés au cours des 2 siècles précédents. C'est à Pierre Lescot et son collaborateur, le sculpteur et maître maçon Jean Goujon, que Catherine de Médicis et Henri II confient la rénovation du vieux Louvre. Dès lors, la façade de l'aile Lescot est considérée comme la naissance de l'architecture en France. Catherine de Médicis fait aussi venir des musiciens et des danseurs italiens, insistant pour que ces dames de la cour s'initient à la danse. Plus tard, ses 4 filles seront également formées à la danse. C'est donc dans les bagages de Catherine de Médicis que le ballet fait son entrée en France. À partir de 1559, alors veuve et régente de son fils, le roi François II, Catherine de Médicis prend goût à organiser des festivals de cour et anime ainsi des spectacles incroyables, que ce soit pour le divertissement quotidien ou pour célébrer un événement comme un mariage de famille. La France devient ainsi célèbre pour organiser ces divertissements extravagants, plus connus sous le nom de magnificence, qui comprenaient des joutes, des feux d'artifice et des mises en scène complètes, souvent basées sur des mythes grecs, mettant à l'honneur la musique, la danse et la poésie. Ces magnificences se déroulent sur plusieurs jours et certaines danses exécutées comprennent des centaines de danseurs. Ces occasions n'épargnent aucune dépense. La musique, la décoration de scène, les costumes et la chorégraphie. On assiste progressivement à la naissance d'une nouvelle forme d'art, le ballet de cour, enraciné à l'origine dans la tradition italienne. Sont alors créés le ballet de la Défense du Paradis en 1572 et le ballet des Polonais en 1573. Le 15 octobre 1581, le duc de Joyeuse, pair de France, se marie avec Mademoiselle de Vaudemont, sœur de la reine. Aussi, Henri III souhaite-t-il organiser pour ce couple une grande et magnifique fête. Rien n'est de trop pour le roi en cette occasion. Habits somptueux, ballets, concerts. On choisit alors le domaine de Circé, la magicienne qui avait retenu pendant un an Ulysse lors de son odyssée. Il restera dans l'histoire comme le ballet de la reine. En effet, Catherine de Médicis supervise elle-même le ballet en faisant appel au célèbre violoniste Baltasarini. Envoyé en 1577 par le gouverneur du Piémont pour se mettre au service de Catherine de Médicis, il est accompagné par une troupe de violonistes italiens. Avec leurs violons à cinq cordes et une manière de les accorder faisant ressortir les sons aigus, ils surprennent fortement par leur virtuosité et leur sonorité à la cour de France. Ces somptueux divertissements publics sont politiquement avisés. Catherine de Médicis les utilise pour afficher la gloire de la maison de Valois, mais aussi pour promouvoir l'harmonie civique entre les catholiques et les calvinistes huguenots pendant les guerres de religion, de 1562 à 1598. Tout en programmant des fêtes extraordinaires, elle soutient des peintres tels François Clouet, des sculptures comme Jean Goujon, des écrivains comme Montaigne ou Ronsard. Les humanistes tels Jacques Amyot sont mis en avant et vus comme recours pour recréer l'harmonie au sein du royaume. Enfin, en 1570, son fils, le roi Charles IX et Jean-Antoine de Baïf fondent l'Académie de poésie et de musique sur un modèle florentin. C'est la première en France. La reine-mère aime aussi faire dessiner des portraits et faire réaliser bon nombre de chacun de ses enfants par des artistes tels que Jean Clouet et Jean de Cour. Elle aime investir dans des bâtiments et faire réaliser d'importants travaux de construction, tel un splendide tombeau pour Henri II et elle-même à la basilique royale de Saint-Denis. Elle lance également les travaux du palais des Tuileries. Catherine contribue aussi à l'évolution des lieux qu'elle aime, comme le château de Fontainebleau, qu'elle fait décorer de fresques murales de Francesco Primaticcio et où se développe un style original qu'on appellera « École de Fontainebleau ». Catherine de Médicis est ainsi la première souveraine à jouer le rôle de protectrice des arts, dans la continuité de son beau-père François Ier. Amèrement attaquée par les xénophobes, par les détracteurs des femmes au pouvoir, par les protestants qui la voyaient comme un boucher, par les fanatiques catholiques qui la trouvaient trop lâche, la mère du dernier roi Valois, de son vivant, est l'objet d'une légende noire. Malgré les efforts de quelques historiens pour blanchir son nom, attribuer aux Guises la responsabilité première du massacre de la Saint-Barthélemy et souligner l'originalité de sa politique de tolérance religieuse, beaucoup continuent à considérer Catherine de Médicis comme la reine noire. Quand elle ne souhaitait qu'être une reine de lumière.
À réécouter sur francemusique.fr.